On va parler de la présidentielle. Hein. Je voudrais revenir sur les promesses de campagne. Alors, il y en a une il y a 5 ans que j'avais mis de côté dans ma tête car elle me paraissait quand même réalisable. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues.
Alors ça, c'était en 2017. C'était en juin ou juillet 2017. Et je me disais, mais comment il va faire? Ça fait des années que c'est comme ça. Comment il va faire en 6 mois pour réaliser ça? Alors on est en 2022. Il faut savoir que le nombre a doublé. Mais je vous rassure, il n'est pas le seul. Je vous propose un saut dans le temps. 20 ans en arrière, 2002. Ça, c'est Lionel Jospin.
Je m'engage à approfondir la lutte contre les exclusions pour aller vers cet objectif zéro SDF que certains ont moqué. Et alors, on dit qu'il n'y a plus d'utopie, mais quand on fixe un objectif dont la formulation est utopique, alors on dit que ce n'est pas crédible. Il faudrait choisir, messieurs les censeurs.
On continue, présidentielle suivante, décembre 2006, lors d'un meeting à Charleville-Mézières, le candidat Nicolas Sarkozy fait cette promesse.
Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid, parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine, mes chers amis.
Alors voilà, voilà, 3 exemples de belles promesses de campagne. Alors comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, on est d'accord. Mais voilà un bel exemple. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il me paraissait important. Une réaction sur ces promesses de campagne qui ne sont pas tenues. Alors il y en a qui sont tenues, mais il y en a d'autres qui sont pas tenues. Et c'est vrai qu'en ce moment, on en entend beaucoup et on a le sentiment que on rase gratis, quoi, comme d'habitude.
Alors moi, je suis toujours un peu étonné des promesses qui sont trop globales. Parce qu'on sait bien que dire on n'aura plus de SDF du tout dans la rue et on va résoudre le problème du logement, c'est utopique ou alors c'est électoraliste. Mais oui. En tout cas, c'est pas réalisable. Et en plus, moi j'avais vu une émission il y a très très longtemps, bon, j'ai peut-être choqué, j'en sais rien, mais il y a des gens, il y avait des SDF qui ont dit « Mais en fait, moi, laissez-moi peinard, parce que quand on me met dans des centres spéciaux pour les SDF, il y a plein de papiers, il y a plein de formalisme, il y a plein de bordel. »
Et plein de violence.
Et plein de violence. Et du coup, moi, je suis pas forcément bien dans la rue, mais je suis peut-être mieux que dans certains centres. Donc, du coup, c'est toujours compliqué.
Philippe ?
Oui, non, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. Et je ramène un peu ça dans la vallée de Serre-Chevalier, on a des travailleurs saisonniers qui vivent au niveau hygiénique, de l'hygiène, dans des conditions assez lamentables, qui vivent dans des caravanes au bord de la rivière. Et ces jeunes, à l'époque que j'étais élu, qu'on voulait loger, ils nous avaient répondu qu'ils préféraient vivre comme ça. Alors je dis pas que tous ceux qui sont dans la rue...
Non, voilà, faut pas généraliser.
Je suis le propos complètement...
C'est comme si on dit tous les chômeurs ne veulent pas travailler.
Exactement, tout à fait.
C'est
un raccourci. C'est un raccourci.
Et c'est comme quand le candidat Macron, comme l'a appelé le journaliste hier sur MC, j'ai trouvé ça génial, il l'appelait monsieur le candidat.
Bah oui.
Bah, je ne connaissais pas ça.
Bah si, monsieur le candidat, c'est normal. Ça ne te rappelle rien, ça. Tu te souviens le truc Vous êtes le candidat, Vous n'êtes pas le président.
Ah, oui.
Tout à fait, monsieur le Premier ministre.
Ouais.
Et quand j'entendais monsieur le candidat Macron parler de plein emploi, je me dis, mais c'est pas possible, le plein emploi.
Ouais. Enfin, j'ai assisté à une conférence géniale, c'est Nicolas Bouzou, qui avait dit... En fait, le plein emploi en France, c'est 8% de population au chômage. Et donc, personne ne comprenait dans la salle en disant « Bah non, plein emploi, c'est 0% de chômage. » Et en fait, non. Il y a structurellement, de toute façon, du chômage, et c'est quand même le plein emploi. Et on le voit, on l'a vu avant l'Ukraine, il y avait des difficultés, je pense qu'il y en a encore, pour recruter. Et donc, il y a, je pense, toute une partie de population qui n'est pas adaptée à des postes qu'on demande. C'est l'évolution en permanence de la société où on crée des nouveaux boulots. Je parle de l'informatique, par exemple. Mmh. Bon, moi, je suis retraité maintenant. J'ai plein de nouveaux potes ou potines, ou je ne sais pas ce qu'on dit. Pas Poutine, hein, mais de dames. Très sympa.
De jeu, on dit.
Voilà. Et ils ne comprennent rien à l'informatique.
Ouais.
Il y avait un film génial. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était un film d'un Anglais, Ken Loach, sur un vieux... de 60 ans, donc trop vieux. Et le gars, il s'en sortait pas pour remplir des formulaires, etc. Donc, des postes d'assistants pour l'informatique, il en faudrait. Mmh. Mais est-ce que les chômeurs actuels sont
formés
pour ça. Oui. Peut-être pas. Mmh. Donc ça veut dire que structurellement, on a des chômeurs et on en aura encore, et pourtant on est dans le plein emploi.
Mmh. Mon neveu qui était au chômage a monté en société,
de service.
Ouais, une société de service pour s'occuper des anciens qui ne savent pas leur iPhone, leur tablette, et ma mère, sa grand-mère, donc, a été sa première cliente, et de fil en aiguille.
Ouais, mais moi, j'ai vendu.
Alors, il faut renouveler évidemment la clientèle, mais.
Mais voilà. prends un exemple. Je vends une voiture aujourd'hui, et bien, il y a hors de question d'aller à la préfecture avec les papiers en disant occupez-vous de ça, parce que moi, je ne sais pas. Non, pas du tout. Tu te débrouilles, ouais. Tu vas sur Internet, vas sur un site, tu coches des cases, ça ne va pas, tu recommences, ça ne va pas. Tu mets un temps fou, tu t'excites, tu énerves ta femme, tu énerves tes enfants. Bah, bref, c'est la cata, quoi.
Alors, il y a les promesses non tenues, bien sûr. Et puis, il y a un autre problème, ce qu'on pourrait appeler, par exemple, ça.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Et la candidate qui survole le débat en matière de mémoire qui flanche, c'est Valérie Pécresse. Alors déjà, sur les réfugiés, ça c'était le 4 mars, écoutez.
Maintenant, ce que je crois, c'est que il est préférable, effectivement, d'organiser leur accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. C'est aussi pour cela que nous travaillons avec la Pologne.
Vous dites un peu comme
avec
Éric Zemmour.
Donc ça, c'était le 4 mars. Le 14 mars, 10 jours plus tard.
Concernant les Ukrainiens, il y a énormément de réfugiés. On est déjà à plus de 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur pays. Vous préfériez que cet accueil se fasse, je cite, dans les pays limitrophes, et vous avez demandé
non, absolument
candidat
pas.
À l'exil.
Non,
vous l'avez dit.
Non, absolument pas. Ah non, absolument pas. Vous confondez avec Éric Zemmour.
Non, pas. Maintenant, ce que je crois, c'est que il est préférable, effectivement, d'organiser leur accueil dans les pays limitrophes.
Mais il ne l'a pas dit. Autre exemple sur le programme du candidat Macron, il disait ceci.
Et s'il n'a pas été capable d'articuler des propositions sur l'outre-mer, c'est peut-être parce que je n'avais pas encore présenté un projet exhaustif. Et que donc il avait besoin d'attendre pour pouvoir piller.
Je crois qu'il a écouté mon programme et j'en suis heureuse parce que visiblement c'était pas du tout sa position il y a quelques mois, mais c'est pareil sur le nucléaire, c'est pareil sur la sécurité, c'est pareil sur la justice. Peut-être que demain ce sera pareil sur l'immigration.
Alors, le problème c'est que voilà, elle a dit que Macron lui avait tout piqué. Le problème aussi c'est que il paraît qu'elle aurait piqué une colère. Alors ça c'est les on-dit, et qu'elle aurait dit donc en off non seulement le programme de Macron est vide et creux, mais en plus un copier-coller collé du mien. Donc, quelques temps après, elle était réinvitée à la télé pour dire
Emmanuel Macron n'a pas du tout le même programme que le mien. Emmanuel Macron n'a pas du tout le même programme que le mien.
Voilà. Les poli- Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il était quand même assez gros, mais les politiques qui disent tout et leur contraire en l'espace de quelques jours, ça aussi, ça aide pas dans cette campagne.
Surtout elle.
Ah bah oui, là Valérie Pécresse, mais il y en a d'autres. Hein. Y en a d'autres.
C'est facile à trouver quand même.
C'est compliqué, hein, c'est compliqué.
Mais bon, en même temps, celui qui a jamais tourné sa veste, il faut qu'il se lève et il dit moi j'ai été parfait. Moi je pense qu'il y a une évolution, et en plus, comme Philippe l'a dit, moi je suis plutôt pro-Macron. Évidemment, il n'est pas parfait Macron, mais il est quand même rassembleur. Alors quand je dis rassembleur, c'est parce que quand vous disiez... Valérie Pécresse est en train de dire on lui pique ses idées. Peut-être il y a Mélenchon qui va dire à un moment donné bah on m'a piqué cette idée aussi, etc. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas piquer des bonnes idées? J'en sais rien, moi. Si on est un peu pragmatique, pourquoi est-ce qu'on est de droite et on n'aurait que des mauvaises idées? Ou pourquoi on est de gauche et on n'aurait que des bonnes idées? Et c'est franchement ça qui me chagrinait dans la politique française. C'est pour ça que je trouvais que la position de Macron, qui était de dire arrêtons les clivages gauche-droite, c'était intéressant. Après, il y en aura toujours qui vont forcément décrier ce qu'il a fait, parce que quand on est au pouvoir, on est forcément décrié. C'est comme un chef d'entreprise. Quand son entreprise elle marche pas, bah c'est de sa faute, et quand ça marche bien, c'est les salariés. Donc ça va pas non plus, parce que c'est un ensemble. Voilà, moi sur cette histoire, bon, c'est vrai qu'elle est pas crédible, parce que à 10 jours d'intervalle elle dit l'inverse.
Mais oui, c'est le problème.
Elle ferait mieux de dire bon, je me suis trompé. Et ça, c'est difficile au niveau des politiques d'entendre effectivement je me suis trompé, j'ai dit ça à telle époque, c'était dans telle circonstance. Et puis, j'avoue que c'est une connerie, je retire ce que j'ai dit. Il y en a très peu qui sont capables de le faire.
Alors, au niveau des conneries, il y en a une magnifique qui a été balancée par Marine Le Pen au sujet de l'essence. Je vous propose d'écouter.
Je rencontrais des infirmières libérales hier. Eh bien, trois infirmières libérales, dans leur cabinet, elles dépensent 250 euros. De carburant par jour, 250 euros par jour, parce que dans la ruralité, eh bien, ce sont des centaines de kilomètres qui peuvent être faits par les gens qui travaillent et qui sont bien souvent éloignés.
Oui. Alors, ça m'a interpellé quand j'ai dit ça. J'ai dit quand même 250 euros par jour. Alors, j'ai fait un calcul rapide. Hein. J'ai mis le diesel à 2.
Je fais 2500 kilomètres.
J'ai mis le diesel à 2 euros, donc 125 litres. Hein. On dit 7 litres au 100, hein, grosso modo. Ça fait à peu près 1700 km par jour. Alors, on imagine que l'infirmière, elle bosse bien. Hein, elle fait 12 heures par jour. Hein, 6h midi, 13h, 19h. Il faudra en fait qu'elle roule à 140 km heure pour se taper les 1700 km qu'elle fait dans la journée.
Voilà. Et elle soigne pendant les trajets.
Et ça passe crème à la télé. Et c'est ça que je trouve quand même un peu étonnant. Alors, je sais que lorsqu'on est face... On est intervieweur, on est face à un politique, on réagit pas toujours sur ce que peut dire. Mais là, c'était quand même énorme. Et c'est passé crème. Hein. Le journaliste qui était en face n'a pas relevé en disant mais attendez, 250 euros.
Ouais, mais il y avait aussi l'histoire des croissants, le prix des croissants. Ah. Plus, ils avaient. Les gens, ils ont absolument pas de notion de... C'était dans le même ordre d'idée.
Non, parce que là, c'est une infirmière qui lui aurait dit ça. Enfin, des infirmières qui lui auraient dit, nous, c'est 250 euros d'essence par jour. Quoi.
Écoutez la formulation, pour vous dire qu'elle est nulle. Elle dit, elle dépense 250 euros.
Ben oui.
Non, mais euros, parce que peut-être qu'elle voulait dire francs avant, j'en sais rien. C'était pas sur euros qu'il fallait insister. Non, ils sont pas très bons.
Chirac disait qu'en politique, faut pas faire des petits mensonges. Ça sert à rien. Faut taper fort et faire des gros mensonges parce que là tout le monde est tellement estompé, comme quand il y en a qui disent il y a 12 millions de chômeurs.
Tu vois,
je veux dire, c'est pas intéressant.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Ce n'aurait pas été intéressant de dire qu'elle dépensait 50 euros par jour d'essence.
Ouais, c'était moins marquant.
Ça avait aucun sens de le dire, donc autant dire 250.
Alors, et puis il y a ceux qui ont des bonnes idées. Ben là, moi je dis bravo à M. Roussel.
Je vous propose, tous les soirs, dès demain, tous les soirs, à 18h, vous organisez des apéros, vous invitez vos amis, vos voisins, vos parents, pour leur présenter notre programme. Inventez les apéros Roussel.
J'ai trouvé ça génial.
Il est excellent.
J'ai trouvé ça génial, les apéros Roussel.
Bien, Roussel. J'aime bien Roussel.
Mais moi j'aime bien Roussel, et je vais vous dire, le dernier truc que j'ai lu... Je trouve ça fantastique. Le mec, il a dit, j'irai pas à telle manifestation parce que mon beau-père est mort. Et je vais aller aux obsèques parce que c'est plus important, la famille, et de soutenir sa femme dans un problème où elle a perdu son père. Et franchement, chapeau. Et de pas avoir passé la politique avant et dire, non, mais il y a des choses plus importantes. Franchement, chapeau.
Alors, un petit mot sur le dernier sondage. C'est la compilation des sondages. Ça, c'est un site très intéressant qui compile tous les sondages. Comme ça, vous avez, parce que des fois, il peut y avoir quand même des gros écarts. Hein.
Donc là, vous avez un jour J, il compile
tous les jours plusieurs sondages. Et donc celui de la dernière compile de ce matin nous donnait donc Emmanuel Macron à 28,9, Marine Le Pen à 18,7, Jean-Luc Mélenchon à 13,9, dans un mouchoir Zemmour et Pécresse, Zemmour à 10,5. Valérie Pécresse à 10,2, Yannick Jadot, bah oui, j'ai quand même cité Yannick, il est à 5,4, Fabien Roussel à 3,6, Jean Lassalle à 2,4, Anne Hidalgo à 2,3 et Nicolas Dupont-Aignan à 1,9. Donc la réflexion que je me faisais, c'est que Emmanuel Macron, ça y est, il commence à perdre. Il a perdu 3 points quand même en l'espace de quelques jours. Alors est-ce que ce serait le début d'un affaiblissement ?
Moi je pense que c'est un peu comme Valérie Pécresse quand elle a été nommée candidate de LR. Elle a eu tout d'un coup beaucoup plus de voix. Ouais. et que du coup elle est redescendue après. Mmh. Macron, il a eu beaucoup plus de voix parce que les gens ont eu peur.
Avec la guerre.
Ils ont toujours peur de la guerre. Mmh. Maintenant que ça se tasse, ou que c'est pas que ça se tasse, c'est que ça dure. Normaliser une guerre,
c'est continue.
En tout cas, ça dure. Du coup, il y a un effet de baisse naturelle. Moi, je comprends ça. Je comprends que les gens, du coup, ils s'habituent et ils ont un peu moins envie de voter Macron parce qu'ils ont envie de dire « faut changer
». On a toujours envie de changer. L'annonce de la retraite.
La retraite à 65 ans, c'était malheureux parce que même si l'idée est intéressante, puisque globalement, on sait que la durée de vie augmente, il ne faut pas le faire de façon brutale.
C'est toujours un sujet délicat. Hein.
Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il n'a pas bien expliqué, il n'a pas pris le temps. Et du coup, c'est très mal passé.
Et puis, Thierry, il y a aussi un truc qu'on commence déjà à en parler, c'est l'abstention qui est annoncée assez forte quand même. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, pour moi, c'est que président Macron soit à 30%. Mais quand, si on annonce de l'abstention qui pourrait flirter avec les chiffres des régionales ou de... Ça fait peur. Parce
vous y croyez, vous, à l'abstention? Vous pensez vraiment que pour une présidentielle, les gens ne vont pas se déplacer? Ça reste quand même l'élection préférée des Français. Hein.
Alors moi, je pense qu'il va y avoir énormément d'abstention de gens disant, de toute façon, c'est plié. Donc c'est pas la peine, je vais faire autre chose, je vais à la pêche ou je vais faire du sport ou du bridge ou n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un peu le problème, c'est que du coup... Comme les instituts de sondage donnent trop d'informations, du coup, trop d'informations, plus d'informations, et du coup, on se dit, de toute façon, c'est pas la peine d'y aller. Et du coup, effectivement, il y aura peut-être les purs et durs qui ont vraiment envie de marquer leur opposition, et on pourrait avoir des surprises intéressantes, alors intéressantes à vivre, parce que je pense à Mélenchon, il pourrait tout d'un coup avoir énormément de gens de gauche qui disent, c'est le seul qui peut... être au deuxième tour, donc allons-y, on va voter pour lui, même si on n'est pas forcément à 100% d'accord. De toute façon, on n'est jamais 100% d'accord avec quelqu'un. Et là, ça pourrait être intéressant.
Alors, ce qui est étonnant, vous allez réagir, dans ce sondage, c'est Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui se tirent la bourre, mais pour une petite position entre le 4e et 5e place pour l'instant. Ça peut toujours bouger, même si ça reste que des sondages, on est d'accord. Mais ils sont en perte de vitesse. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que je me posais la question si ce ne serait pas l'impact du fameux débat qui a eu un débat cacophonique entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour il y a quelques semaines. Je me posais la question, est-ce que ces débats qui partent en pugilat ne font pas plus de mal que de bien pour les candidats?
Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde ce genre de débat?
Oui, il y a un peu de monde, évidemment. Et puis il y a du monde qui regarde. Et puis il y a surtout ensuite tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, même si tu n'as pas vu le débat, tu as des extraits.
Il y a leurs sympathisants qui ont tendance à regarder et qui peuvent être déçus à ce moment-là, parce que le débat tourne mal.
Il y a ceux qui regardent pour le cirque aussi. Enfin, ils savent que de toute façon, ça va être un... C'était avec Hanouna, non? C'était avec...
Je sais plus si c'était c'est possible que ce soit chez Hanouna, c'est possible, j'ai plus du tout l'idée, mais je sais que c'était parti un peu en pugilat, quoi, et c'était très compliqué. Et donc la question, c'est bien gentil de vouloir faire des débats, mais est-ce que d'avoir un débat un peu posé, ça peut aussi porter ses fruits plutôt que de partir en sucette comme souvent ça peut partir en sucette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toujours est-il que ils sont tous les deux à sortir les rames pour l'instant, que ce soit Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. Éric Zemmour, d'ailleurs, on pensait que l'arrivée de Marion Maréchal allait booster un petit peu sa campagne, parce qu'elle était justement en train de ralentir. Eh bien, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté.
Pécresse, pour revenir à elle, l'érosion de son électorat ou de son pourcentage, il a commencé avec son grand meeting où elle... Je pense que dès qu'elle prend la parole, en fait, elle perd des voix.
Je
pense qu'elle n'y arrive pas. Avec son ton forcé, ses jeux d'acteur de série B, son articulation
Ce qui prouve bien que les gens...
tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'elle, elle a un inconvénient, c'est que... Elle n'a pas de charisme, comme dit Yves, et elle perd des voix à chaque fois qu'elle...
Mais ce qui prouve bien que les Français, globalement, les gens qui votent, il s'attache sur la forme et non pas le fond. C'est-à-dire que si tu parles bien, si tu es charismatique, si, peu importe ce que tu dis, et là, vous retenez le truc de la cacophonie.
Ouais.
Les gens, moi, j'ai pas regardé ce débat-là, mais j'ai effectivement entendu cacophonie. Et je me suis dit, cacophonie, ça veut dire que c'est le bordel. Donc, c'est pas des gens intéressants s'ils sont pas capables de parler normalement. Opposément. Et donc, du coup, ils sont décrédibilisés, les deux qui ont fait le bordel.
Est-ce que justement, la primaire, la fameuse primaire DLR, aura été vraiment judicieuse? Est-ce que Xavier Bertrand a raté le coche? Ne serait-il pas aujourd'hui le candidat idéal pour les LR?
Moi, je dis finalement. Non, pour moi, ils ont pris la bonne personne.
Je sais pas, je pose la question. On est sur deux présidents de région, hein, que ce soit Valérie Pécresse ou que ce soit donc de l'autre côté Xavier Bertrand. Xavier Bertrand a-t-il eu raison de rejoindre les LR? Est-ce qu'il n'aurait pas dû rester dissident et partir tout seul? Peut-être qu'aujourd'hui, il serait dans une position un peu comme Zemmour avec Marine Le Pen. Vous voyez?
Ouais, Zemmour n'a jamais été au Front National.
Je veux dire, ils sont du même bord, voilà.
Non, moi je pense que si Bertrand s'était présenté, il serait à côté de Jean Lassalle.
D'accord.
Oui, je pense.
D'accord.
Non, mais
toi aussi. Alors,
moi, Xavier Bertrand, je le trouve beaucoup plus modéré et plus Macron compatible. Et du coup, ça froissait les gens comme Ciotti, qui frôlait le Front National ou le Rassemblement National.
Ou le Zemmourisme.
Ou le Zemmourisme. Et du coup, c'est un troisième larron, en l'occurrence une dame qui est passée. Mais je pense que c'est parce que le LR sont très très ennuyés entre le centre et l'extrême droite. Et ils ont un discours complètement confus. Un coup, c'est oui, on est social. Après, non, on est contre les immigrés. Enfin, c'est compliqué pour eux.
Ils font un grand écart
perpétuel. Et ça, franchement, c'est...
Et ça fait mal aux adducteurs.
Oui, mais et puis les gens sont paumés. Du coup, ils se disent, je vais voter pour qui, pourquoi, pour quelle idée.
Finalement, à la première élection, Macron, il a tué la gauche. À la deuxième, il tue la droite conventionnelle. Quoi.
Pourtant, on pensait que la droite était en train de renaître de ses cendres. Hein. Avant la fin de l'année, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quoi. Mais
Je pense que le candidat qui aurait pu faire du mal à Macron, c'est l'ancien Premier ministre, le maire du Havre.
Édouard Philippe.
Évidemment.
Oui.
Parce que lui, il était ancien LR et il avait la... Si il s'était démarqué de Macron, visiblement il n'a pas envie.
Non, mais pas pour l'instant.
Mais s'il avait voulu être dissident de Macron, lui il avait une vraie autorité, on va dire gentille. C'est pas une autorité méchante, mais
rassembleuse.
Ouais, rassembleuse. Et puis il a prouvé qu'il savait quand même gérer. Donc avec de l'humour, moi je pense qu'il aurait.
Ouais, mais ils ont passé un deal. Et oui, c'est la prochaine.
Je pense que c'est la prochaine.
Peut-être.
Sa barre sera complètement blanche en 2027.
Ouais.
Non, mais je pense qu'ils ont passé un deal. Parce qu'il avait envie, Édouard Philippe.
Oui, à un moment donné, il a fait un parti à part. Ils ont sûrement fait un accord.
Ouais.
Mais lui, il aurait été sûrement dangereux par rapport à Macron.
C'est sûr.
On a l'impression que Éric Zemmour est en train de jouer ses dernières cartes. Hein. Il est toujours sur l'immigration. Et ça commence vraiment à lui jouer des tours. Certains de ses proches, d'ailleurs, regrettent cet entêtement. Alors que beaucoup de candidats, en fait, sont partis sur un sujet beaucoup plus porteur aujourd'hui, qui est le pouvoir d'achat. Et c'est le cas notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les deux qui montent, de toute façon.
Alors, Mélenchon, j'ai une opinion qui est...
difficile ?
Non, c'est pas difficile du tout. Je trouve qu'il est trop vieux et que en ayant été battu, il est difficilement pour les jeunes. Ruffin aurait été beaucoup mieux parce que Ruffin, il était carrément social. Il a des idées novatrices. Au niveau économie, je suis pas sûr que ça passe bien, mais en tout cas, il était intéressant. Il a fait un film génial que j'ai vu là. C'était sur Merci Arnaud, je sais pas quoi.
Merci Patron.
Et Ruffin aurait été plus dans une ligne gauche révolutionnaire, mais avec des idées et pas trop anarchiste non plus. Et là, le fait de reprendre Mélenchon, je suis pas sûr que ça soit le bon choix.
D'accord, mais est-ce que Mélenchon peut rejoindre Marine Le Pen? Parce que là, il y a, on va dire, 4 points, grosso modo, entre les deux. On sait que la marge d'erreur, ça peut être 3 points. Donc, est-ce qu'il peut créer la surprise, selon vous, et se retrouver au deuxième tour?
Moi, c'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes, enfin 5 minutes.
Oui.
Moi, je pense qu'il peut faire le buzz et arriver au deuxième tour.
Et là, dans ces cas-là, il y a déjà eu des estimations de résultats.
C'est Macron qui est. De toute façon, pour l'instant, au deuxième tour, si Macron y est, il n'y a personne qui passe devant. Celle qui était le plus proche de lui en cas de face-à-face à une époque, c'était Valérie Pécresse. Voilà, absolument. Un dernier mot pour Zemmour, puisqu'on parlait de son tout sur l'immigration. Sa dernière lubie, c'est celle-là. Je vous propose d'écouter.
Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Je vous donne des détails.
Ça, vous l'annoncez ce soir.
Absolument.
Ça, on est d'accord.
Absolument.
Un ministère de
la remigration des étrangers dont on ne veut plus. Le ministère aura des moyens, il aura des charters, on fera des vols collectifs.
Alors, la question que je me suis posée, c'est celle-ci.
Où avez-vous appris à dire autant de conneries?
2 ans de télé.
Oui, sauf que lui, il en a fait beaucoup plus. Mais là, on a atteint un certain haut niveau. Même à l'intérieur de son parti, ils disent, mais il a pété un câble.
Ouais. Mais Rémi, il est décrédibilisé rien qu'en disant ça. Donc
on a l'impression qu'il lance ses dernières cartouches, non?
Mais sur l'immigration, 2 secondes, moi j'avais vu un reportage que m'a fait visionner mon fils, qui était extraordinaire. C'est un Suédois qui avait fait une étude sur l'immigration au niveau mondial. Et il avait fait avec des boules qu'il avait mis dans des immenses jerrycans ou bouteilles. Et il avait montré le pourcentage d'immigrés par rapport au pays en question et à la possibilité d'intégrer des gens nouveaux dans les pays. Mais c'est fabuleux. On a une capacité incroyable à accueillir des gens. Sauf que c'est pas politiquement bien de le dire et c'est pas. Et ça froisse beaucoup de personnes. Mais en réalité, ça va rien changer à la crise mondiale si on accueille 1 million d'immigrés en France alors qu'on est 66 millions. Mmh. Et aux États-Unis, c'est pareil.
Ouais. Enfin, ça demande une vraie politique d'immigration qu'on n'a pas su mettre en place
en France. Bien sûr, parce qu'en fait, on regarde que les mauvais cas, les immigrés qui sont.
Non, mais il y a plein de choses. Hein. Moi, j'ai un fils qui habite en Hollande. Je peux te dire que la politique d'immigration. Elle est beaucoup plus visible, existante, active, droit de voir, etc., etc. Même pour mon fils et ma belle-fille, français vivant en Hollande, hein.
Ouais.
Ils ont des aides pour garder leurs gosses de la ville d'Amsterdam à condition qu'ils apprennent le néerlandais. Mais ils apprennent pas le néerlandais comme on apprenait le néerlandais le français à la décode. Ils ont des examens et ils étaient en vacances chez nous. Ils ont dû rentrer parce qu'il fallait qu'ils soient présents.
Qu'ils passent l'examen.
Ouais. La décode.
Oui, parce qu'à la décode, moi j'ai fait de l'italien et j'ai vu passer ce que l'État envoyait en formation, soit pour l'italien pour les gens qui étaient au chômeur, soit pour les étrangers.
Thierry, juste un truc, qui c'est qui dit 2 ans de télé quand vous avez...
Alors ça, c'est extrait d'un film « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Et c'était une réflexion entre Sim qui posait la question et Mireille Dard qui répondait. Voilà. Comment faites-vous pour
dire autant de conneries?
Un dernier mot sur Zemmour qui balance ça. C'est tellement idiot, puisque tous les gens qui rêvent d'un ministère de la remigration, ils sont déjà dans ces 10%. Ouais. Donc ils ratissent absolument pas. Il peut juste faire fuir certains de ses électeurs qui ne vont pas aussi loin. Mmh. Mais ils ratissent personne en disant ça, puisque...
C'est une analyse, effectivement, qui est pas mal du tout. Hein? Tu as raison.
Moi, à 3 semaines des élections, je ratisserai, quoi.
On termine.
Je dirais n'importe quoi.
On termine parce qu'on est arrivé pratiquement au terme de l'émission, très rapidement, avec... Alors, qui sera Premier ministre? Alors, je vous pose la question comme ça, en imaginant que ce soit Emmanuel Macron qui soit élu. Qui sera, selon vous, Premier ministre d'Emmanuel Macron?
Moi, je verrais un ministre en exercice qui a été bon.
Ouais.
J'ai envie de dire le maire, mais ça ne me fait pas trop envie. Mais c'est une possibilité.
Ouais.
Un ministre qui a bien bossé, quoi, qui a eu une belle image. Je botte en touche et je dirais qu'il faudrait qu'il prenne comme ministre du Travail Fabien Roussel. Voilà.
Ah ouais?
Ah ouais, faut qu'il y aille. Quoi. C'est pas possible. On a découvert ce gars il y a 3 mois, qui change tout, quoi, qui fait exploser tous les codes. Et c'est des gens comme ça qu'on aura envie de voir aussi. Quoi. Voilà.
Donc, d'accord.
Je boude.
Alors, moi, je vais être complètement chauvin, parce que j'adore Joël Giraud. Et là, il est passé de secrétaire d'État à ministre, donc je le vois bien Premier ministre.
Eh ben allons-y.
En plus, sur la ruralité qui est... Et puis ce type, il est extraordinaire, donc moi, je le verrais bien Premier ministre.
D'accord, Rémi, t'as vu quelqu'un?
Moi, je pense qu'il va sortir du chapeau quelqu'un comme Castex, qu'on connaissait pas.
Ah oui.
Voilà, je sais pas.
Ouais. D'accord, ok. Si c'est Marine Le Pen, alors je vous le dis, parce que il pourrait, ça se murmure, que Marine Le Pen pourrait prendre en Premier ministre Arnaud Montebourg. Ce qui est quand même très étonnant.
Moi, je dirais son mari.
Moi, je dirais son père.
surtout qu'ils se sont réconciliés.
Oui.
Elle ne prendra pas sa nièce.
Non, non,
son
non,
père.
Non.
Dans une boîte familiale, on fait de la place à ses proches.
Encore deux. Jean-Luc Mélenchon.
Ah, moi, j'adorerais la dame avec la grosse chevelure, là.
Raquel Garrido.
Voilà.
J'adorerais.
D'accord, ok. Tu as pensé? T'as une idée?
Pour Mélenchon?
Ouais.
Bah moi je suis toujours pour Ruffin.
Hein, ah oui, bah oui, Ruffin, ça serait une bonne idée.
Moi, je pense Clémentine Autain.
D'accord. Ok. Valérie Pécresse. Xavier Bertrand.
Oui.
Sûrement.
Oui. Xavier Bertrand.
Oui, oui.
Éric Ciotti.
Non.
Non. Éric Ciotti à l'intérieur.
Absolument.
Sûrement.
Hein? Non mais si, ça doit être écrit, je pense. Ah, ça doit être écrit. Ça doit être écrit. Et on termine avec Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal.
Non, Gilbert Collard.
Moi. Il prendrait Marion Maréchal. Ça serait la deuxième femme Premier ministre depuis le début de la Ve République. On en a eu qu'une. Hein.
Cyril Hanouna.
Cyril Hanouna.
Éric Nolo.
Non, je pense pas. Je pense que ça serait compliqué. Bon, voilà, c'est sur cette note souriante que l'on va se quitter. Merci Yves d'être
M'avoir invité.
Venu nous accompagner pour ce numéro 721. Merci Philippe, merci Rémi.
Merci.
On vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera en direct de Gap cette fois-ci. On a déjà une petite idée pour le mois prochain,
oui,
l'invité.
On avait dit qu'après la saison de ski, on réinviterait le patron de Serre Chevalier.
Ouais, pour faire le bilan.
Pour faire le bilan de la saison qui a été encore une fois un peu particulière.
Allez, on fait comme ça. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine.